France Culture.
Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Ça déchire et ça part en banane ce samedi dans Plan large avec Émilie Brisavoine et Marie Lozier et aussi Charlotte Garçon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan large. Comment faire rentrer dans le cadre des personnages bigger than life, plus grands que la vie, entre deux fastidieuses cérémonies où on ne sait trop si le cinéma s'auto-congratule ou s'enterre, deux films cette semaine esquissent quelques pistes, confrontés qu'ils sont à des femmes d'exception complexes, libres et carrément punk. S'y restituent aussi les relations familiales ou amicales, tourmentées ou complices, qui les lient à leurs autrices, deux réalisatrices autodidactes et également plasticiennes, et ça se sent dans leur manière de travailler la matière même de leurs images et de pratiquer un art du montage qui tient du collage spatial comme temporel. Le premier est signé Émilie Brisavoine, une réalisatrice qu'on avait repérée et déjà beaucoup appréciée il y a 10 ans avec un Pauline Sarrache qui, sous la forme d'un conte, retraçait l'émancipation d'une jeune fille, la demi-sœur de la cinéaste, d'un milieu familial un rien brinzing et pour le moins dysfonctionnel mais diablement attachant. Un personnage secondaire de ce premier opus, leur mère commune, est devenu 10 ans après le centre gravitationnel, pour ne pas dire le trou noir, d'un nouveau film tout aussi kaléidoscopique que le premier, voire encore plus, Maman déchire, et ça déchire pas mal en effet. Le second nous vient d'une artiste qui depuis près de 25 ans filme avec sa Bolex 16mm les gens qu'elle aime, qu'ils soient cinéastes underground, catcheurs transgenres ou musiciens et musicienne avant-gardiste. D'un long compagnonnage avec la chanteuse de rock électropunk Peaches, Marie Lozier a tiré son nouveau long métrage Peaches Goes Bananas, et ça devrait quelque peu vous remuer. Autant dire qu'elles ont sans doute 2 ou 3 choses à se dire, et leur film avec, nous sommes d'autant plus heureux de les recevoir ce samedi en direct dans Plan large. En fin d'émission, Charlotte Garçon nous révélera tout ou presque sur le jeu d'acteur selon Sanford Meisner, pour celles et ceux qui n'en peuvent plus de la méthode avec un grand M. Mais pour l'heure, on commence par un de ces événements qui reconfigurent les familles et donnent parfois des envies de cinéma.
Depuis que mon fils est né, j'arrête pas de faire des cauchemars sur ma mère.
Oh, t'es beau, mon petit cœur. T'es beau.
Oui, je sais que c'est toi.
Je sais.
Aaron.
Tes petits yeux.
Oui,
c'est le premier Noël de mon petit-fils, mais où ?
Pourtant, ça s'est jamais aussi bien passé entre nous.
T'es bien entourée, là. T'es bien entourée.
Oh, mon cœur, je t'aime. Je t'aime fort. Je pense à toi tous les jours. Oh, mais là, t'es content d'en venir. Mon petit chéri. Oh, mon petit chéri. C'est mamie là.
Bonjour Papoum, as-tu bien déjeuné? Mais oui Papoum, j'ai mangé du pâté.
Tu peux la main.
Mais le petit oiseau. Mais non, je ne veux pas lui faire. Je vais pas te faire du mal. Tends ta main comme ça. Voilà, fais. Non mais, t'as déjà vu ça? Oh coco, le petit oiseau. Oh mon petit Cosmo.
Ça me fait du bien de l'avoir s'occuper de mon fils. Mais en même temps, je peux pas m'empêcher d'avoir les boules. Parce que c'est pas elle qui m'a élevée.
Bonjour, Émilie Brisavoine.
Bonjour.
C'est votre voix qu'on a entendue dans cet extrait de votre film en off, Maman déchire. C'est au début, après un prologue cosmique où surgissent déjà des images de fœtus, de bébés et d'une femme véhémente ou accueillante et qui pourrait être un des cauchemars dont vous parlez. Quel lien y a-t-il entre le fait de devenir mère, comme vous venez de le dire dans ce film, et le besoin, plus même sans doute que l'envie, le besoin vraiment de refaire un film à partir de votre famille, Émilie Brézavoine?
Ben, c'est-à-dire que pour moi, le cinéma, c'est une manière de vivre, quoi. C'est un outil qui me permet d'affronter le réel. Et lorsque je suis dans une impasse, finalement, ben, c'est peut-être ma manière de régler le problème, ou en tout cas de pouvoir l'explorer. Donc, c'est vrai que 10 ans après Pauline Sarrache, il y a ce deuxième film qui sort sur ma mère. Et qui, en fait, ma mère est le plus grand mystère de mon univers, je pense, depuis que je suis née. Et après Pauline Sarrache, j'ai commencé à écrire un scénario de fiction qui tournait autour d'une figure maternelle aussi. Et au fur et à mesure des réécritures et des passages de commissions, etc. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi travailler encore sur une figure théorique? Pourquoi ne pas reprendre ma caméra comme je l'ai fait la première fois et aller filmer directement ma mère et revenir à la source?
Alors, pas complètement comme vous l'aviez fait la première fois, parce que la première fois, donc, dans Pauline Sarrache, vous étiez derrière la caméra, on sentait votre présence, on sentait que vous aviez une relation forte avec les personnes que vous filmiez, mais enfin, voilà, on vous voyait pas. Cette fois-ci, vous êtes devant, enfin, vous êtes derrière et devant. Est-ce que c'était aussi une façon pour vous de conquérir le droit d'être devant, cette fois-ci?
Oui, de trouver ma place dans le cadre. Oui, c'est vrai. Alors ça, c'est quelque chose qu'il a fallu que j'ai dû conquérir, en fait, finalement, parce que initialement, j'ai commencé à filmer ma mère pendant un an. J'ai récolté une 60aine d'heures de rush où je la regardais derrière ma caméra. Et ensuite, j'ai beaucoup filmé mon frère aussi, Florian. Et en fait, finalement, j'ai accepté le fait que j'allais être un personnage central quand j'ai retrouvé mes journaux intimes, en fait. Avant de commencer le tournage, j'ai retrouvé mes journaux intimes de petite fille que j'avais jamais relus. Et ça m'a fait l'effet d'une machine à remonter le temps. En fait, je pensais que j'allais trouver des histoires de copines qui veulent plus être ma copine ou de maîtresses pas gentilles. En fait, pas du tout. J'ai retrouvé ces récits du passé qui décrivaient cette relation complexe avec ma mère et ça m'a fait l'effet d'une douche froide, quoi. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible que cette petite fille soit aussi lucide et courageuse et sans filtre alors que moi je suis devenue une adulte qui fait plus le dos rond, puisque finalement avec le temps on se polisse, on apprend à ne pas parler, à ne pas dire ce qu'on pense, et du coup je me suis dit, mais je peux pas trahir cette petite fille, il faut que je la mette au centre du récit, et parce que cette petite fille, en fait, permettait de faire le pont entre l'adulte et l'enfant, entre le passé et le présent, et entre l'inconscient et le réel, quoi.
Mais ce qui fait que vous vous retrouvez dans une position double, qui est le cas de la plupart des gens, qui à la fois sont dans la situation et s'observent être dans la situation. Vous, littéralement, vous êtes à la fois regardante et regardée, protagoniste et filmeuse. Comment est-ce que vous avez joué, et on sent qu'au montage, vous en jouez beaucoup, de ces deux positions que vous occupez simultanément, Émilie Brézavoine?
Oui, c'est vrai qu'il y a il y a une position schizophrénique, c'est-à-dire que je vivais à la fois je vivais la situation en tant que fille, mère, personne qui traversait justement une période existentielle un peu mouvementée, et en même temps j'étais la cinéaste, c'est-à-dire que ça me permettait aussi d'avoir cette prise de recul qui me permettait de m'observer et d'observer les gens de mon entourage aussi comme des personnages d'un récit, quoi. Et justement, je pense que moi, c'est ce qui m'aide à vivre, justement, le fait d'utiliser le dispositif cinématographique qui, en lui-même, a quelque chose de contradictoire. C'est-à-dire que derrière une caméra, la caméra, ça permet à la fois de plonger en profondeur à l'intérieur du réel et en même temps de le regarder avec cette protection de la distance. Donc, je pense que ouais, ce mouvement contradictoire fait vraiment partie du dispositif cinématographique.
Et ce mouvement contradictoire, ça tient aussi à la différence, on en reparlera avec Marie Lozier tout à l'heure, pas à la différence, mais en tout cas à la discussion entre le son et l'image. Vous jouez beaucoup entre, avec l'écart entre ce qui est vu et ce qui est dit, en off, notamment. Comment et quand il a été écrit, ce texte?
En fait, je fabrique les choses de manière très empirique. C'est-à-dire que, comme je vous le disais avant, j'ai essayé d'écrire un scénario de fiction, mais pour moi, c'est tellement théorique et désincarné que moi, j'ai besoin d'être traversée par l'expérience, en fait, d'être remuée par quelque chose qui m'atteint moi émotionnellement de manière très organique. Et donc, en fait, j'ai écrit une cinquantaine de versions de films pour trouver justement pour trouver la manière de raconter cette relation complexe. Et donc ça s'est fait beaucoup en fabriquant, en ayant des idées, en juxtaposant, en collant. C'est-à-dire que j'ai une grosse réserve de rush, de sons aussi. Je trafique beaucoup les sons, je juxtapose. Et effectivement, c'est hyper important parce que c'est un petit peu dans ce décalage entre que ça soit le son et une image, mais aussi dans le fait de pouvoir le fait que il y ait, pour représenter le passé, il y a ces images d'archives qui sont des Super 8, qui sont un petit peu les images d'Épinal qu'on a tous chez nous, c'est-à-dire les images d'anniversaire, de Noël, qui sont des images heureuses. C'est un petit peu l'Instagram de l'époque où tout le monde faisait bonne figure, jouait à la famille idéale. Et moi, il y avait ce contre-champ que j'ai retrouvé dans mes journaux intimes, justement, qui permettait un petit peu de voir les coulisses de ces images d'Épinal. Et donc, il fallait tout le temps faire jouer cette dialectique pour pouvoir donner accès à une réalité des rapports et des situations, puisque toutes ces images d'archives qui sont jolies, on les a tous, mais on n'a pas forcément cette réalité des rapports et des ressentis que moi j'ai pu retrouver grâce à ces journaux intimes qui sont des traces documentaires inestimables pour moi, quoi.
Et puis il y a d'autres types d'images encore qui s'invitent dans votre film.
Si vos parents n'ont pas pu vous donner reconnaissance, affection et protection, tout simplement parce qu'ils ne l'ont pas reçu eux-mêmes, votre corps grandit quand même, mais votre croissance affective se bloque. Vous comprenez donc qu'il y a une partie adulte chez vous, un côté adulte et un côté enfant, et que les deux entrent en conflit. C'est l'enfant intérieur. Ce fameux terroriste terrorisé, comme je le nomme, avec affection, c'est lui qui prend les commandes de votre avion et qui vous envoie dans le mur.
Je suis très en colère. Aujourd'hui, il y a la mère d'Émilie M. qui est venue m'engueuler à la sortie de l'école, soi-disant que j'humilie et que je harcèle sa fille devant toute la classe, qu'à cause de moi, elle a repris son doudou et que ses règles se sont bloquées. Pauvre petit bébé à sa maman. Heureusement, elle n'a pas appelé mon père. Parce qu'en ce moment, à la maison, c'est pas la big ambiance. Papa est tout le temps de mauvais poil et Flo, il plane, comme d'hab. Et moi, je suis une grosse emmerdeuse. Grosse emmerdeuse et fière de l'être. Ça me fait du bien de rendre la monnaie.
Cet enfant intérieur, on vous a peut-être dit de le dorloter, de le chouchouter, de le rassurer. Mais si vous étiez agent de bord dans un avion et que vous savez qu'il y a un terroriste en première classe qui va sauter sur le dos du pilote pour détourner l'avion, avez-vous envie de lui servir du champagne ou voulez-vous le mettre dehors de l'avion ?
Voilà, c'est une authentique thérapeute 2.0 qu'on a entendu parler d'enfant intérieur avant d'entendre le vôtre d'enfant intérieur, Émilie Brisavoine. On ne sait jamais trop à quel degré il faut regarder toutes ces images et conseils de développement personnel que vous êtes allé chercher sur Internet ou dans la vraie vie. Aussi, ce qui est certain, c'est que vous en faites un usage extrêmement poétique qui tient autant de l'art brut que du cut-up, Émilie Brisavoine.
Oui, alors pendant le confinement, j'ai épluché beaucoup de chaînes YouTube de développement personnel de différentes obédiences, allant des choses les plus New Age, évangélistes avec des anges, ou enfin des choses très différentes et qui moi m'intéressent en tant que cinéaste parce qu'ils produisent des récits en fait, et ça crée du storytelling. Alors effectivement. Parfois, il y a peut-être des charlatans, mais en tout cas, moi, ce que je voyais, c'était surtout des gens qui essayaient à leur manière d'aider leurs prochains en proposant des récits
dont l'enjeu, finalement, on s'en fiche que ça soit scientifique ou pas, que ça marche ou pas. Je pense que l'enjeu, c'est surtout d'essayer de trouver, de domestiquer un petit peu nos souffrances, puisqu'on est quand même dans une société où, qui est très matérialiste et rationaliste, et où on n'a pas vraiment de choses à se mettre sous la dent concernant les souffrances de l'âme. C'est vrai que dans les sociétés traditionnelles, il y avait des rites chamaniques, ou en tout cas, il y avait des rituels qui permettaient d'inscrire le symbolique à l'intérieur de la matière. Et donc, finalement, moi, ça m'intéresse en tant que cinéaste. Je porte pas spécialement de jugement dessus. Et après, il y a des choses que je trouve drôles aussi. Et puis, bah, moi, je regarde les choses un petit peu avec amusement et en même temps avec sérieux. Moi, je m'inclus dedans. C'est-à-dire que ce que j'avais envie de montrer, c'était à quel point comment on essaye de domestiquer ces souffrances-là, quoi, finalement, et que ça fait partie de notre condition humaine que de traverser ces soubresauts intérieurs. Et oui, vous parliez d'art brut, et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, l'art brut. J'aime, en fait, ce que les gens produisent d'eux-mêmes avec, quand ça part d'une nécessité intérieure et que les gens créent par eux-mêmes un langage qui est pas du tout inféodé à des grammaires ou des écoles préexistantes et qui parlent, voilà, qui sont sans filtre. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est pour ça que j'aime aussi beaucoup les films amateurs.
Mais c'est un point commun entre Marie Lozier et vous, Émilie Brisavoine. Vous avez inventé toutes les deux votre langage sans passer par des écoles et à partir plutôt des arts plastiques. Marie Lozier, vous avez vu ce Maman déchire. On va parler tout à l'heure avec vous de Pitchers, mais Maud, c'est pas mal non plus comme personnage de cinéma.
J'ai adoré rentrer dans le monde d'Émilie de par la forme tactile du collage, du son et puis de l'émotion. Et c'est vrai que je pense que le sujet de la famille, qu'elle soit famille de sang ou qu'elle soit famille reconstruite ou adoptée ou être adoptée par une famille, c'est un sujet central, je pense, dans mon travail, même si c'est peut-être pour la première fois qu'il est un peu plus explicite. De par la famille de Peaches, qui a une place dans le film. En tout cas, la relation avec sa sœur.
Oui, ce sont les familles choisies chez vous, Marie Lozier. Mais justement, pour revenir à cette question de collage, il y a quelque chose qui est très frappant chez vous, c'est votre goût pour la surimpression, Émilie Brisavoine, comme si vous nous disiez que derrière le réel, hommage à David Lynch, il y a toujours un autre réel qui se cache, et parfois des tréfonds terribles, et aussi que dans le présent se cachent toujours des strates temporelles qui se superposent. C'est dans ce sens-là que vous avez travailler le montage de votre film, Émilie Brisavoine.
Moi, je crois que ce qui m'excite le plus en tant que cinéaste, c'est de créer une écriture cinématographique qui permette de retranscrire le flux de la conscience. Et ça, je trouve ça passionnant parce que c'est par le cinéma qu'on peut faire ça, parce que grâce au cinéma, on peut accéder, on peut parler à la fois on peut être là en cinéma direct et on peut aussi être ailleurs, on peut être dans le passé, on peut être dans la psyché, on peut être dans l'inconscient, on peut être dans l'imaginaire, on peut, un petit peu comme dans la vie, vous êtes en train de vivre cette scène-là et en même temps, on a peut-être des souvenirs qui nous reviennent, on pense peut-être à notre liste de courses ou, je sais pas, aux conneries qu'on a vu à la télé tout à l'heure. Et en fait, la conscience, c'est un objet comme ça, hyper vibrant, volatile, kaléidoscopique. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de... Enfin, c'est le plaisir que j'ai au montage, c'est de retranscrire cette vitalité-là.
Et de faire aussi... Avec le réel, puisque vous aviez un projet, j'imagine, avec ce film, dans le meilleur des cas, ça vous aurait définitivement réconcilié avec votre mère, elle aurait entendu ce que vous aviez à lui dire, et tout irait bien, sauf que votre mère, elle s'en va au milieu du film, et tout d'un coup, sans doute que ce hasard de la vie a complètement réorienté votre film, et sans doute pour le meilleur. C'est-à-dire que ce n'est pas un film qui va nous donner une sorte de mode d'emploi pour un happy end irrémédiable, c'est plutôt un film qui nous dit, la vie, elle est compliquée, ça se résout pas toujours, mais on peut faire avec.
Oui, c'est-à-dire que c'est vrai que le mouvement le plus important pour moi de cette expérience documentaire, c'est de faire avec le réel, quoi. Et je pense que si j'avais écrit un scénario de fiction, j'aurais fait une fin hollywoodienne avec de la résilience et puis tout est bien qui finit bien. Mais là, justement, comme c'est du documentaire, la vie est beaucoup plus imprévisible, un peu plus grande, plus folle, quoi. Et effectivement. L'enjeu, c'était de se dire, ce dialogue que je voulais avoir sur le passé, il n'est pas possible à cet endroit-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait, justement, de ces blessures, en fait? Qu'est-ce qu'on fait si cette discussion-là n'est pas possible? Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est l'idée de composer avec ce qu'il y a d'irrésolu et de complexe dans la vie. Et ça, je pense que la pratique documentaire permet de montrer cette subtilité qu'il y a dans la vie, qui est jamais, c'est jamais manichéen en fait. Les choses sont à la fois sont contradictoires sans arrêt. C'est-à-dire que ce dialogue-là, il est pas possible de manière documentaire en cinéma direct avec ma mère, mais j'utilise le cinéma pour permettre un dialogue entre nos deux enfants intérieurs. Et là, pour moi, c'est aussi une manière d'accéder à ce dont j'avais besoin. C'est-à-dire que c'était une manière pour moi de dire à ma mère, de faire une déclaration d'amour à ma mère, c'est-à-dire de lui dire, je t'aime et je t'accueille et je te regarde tel que tu es une enfant ravagée. Et pour moi, c'était important d'utiliser le cinéma justement pour là où la vie, là où il y a une impasse dans la vie, quoi.
Tout va bien, Émilie Brisavoine, Maman déchire est en salle depuis mercredi. C'est un film soutenu par France Culture et on s'en réjouit. Vous écoutez précisément France Culture Plan Large et vous restez avec nous. Émilie Brisavoine, on peut être punk et amical et se souvenir à l'occasion d'une pause repas avec son groupe d'une première et très décisive rencontre.
So crazy that I met Marie here 13 years ago in Brussels.
In Brussels.
Genesis Purge was opening for Kisses.
This is crazy.
Who was opening?
You know,
Four Fingers,
and Psychic Soul, and Psychic TV was opening for me.
Wow.
Yeah. It was a beautiful night.
How was it?
Mm-hmm. It was amazing. I loved Genesis.
Yeah.
That's where we met 13 years ago. Because Marie was doing a documentary on Genesis.
Okay.
Nice.
You know?
I love Genesis.
That's famous documentary?
I didn't realize Genesis.
Oh, I think I've seen that.
The Ballad of Genesis and
Jacob.
Yeah. That's Marie.
Well done.
I love Genesis.
Give me some room.
peut dire, Marie Lozier, comme pour la naissance du fils d'Émilie Brisavoine, que c'est la scène originelle de votre film Peaches Goes Bananas, que raconte Peaches, c'était je crois il y a 6 ans, elle est à table avec son équipe, on est à Bruxelles, et raconte-t-elle, c'est là que vous vous êtes rencontrés 13 ans auparavant, en 2006 donc, alors que vous tourniez ce qui allait être votre premier long métrage, The Ballad of Genesis and Lady J. La genesis du titre, c'est Genesis Porridge, et elle faisait à l'époque avec son groupe Psychic TV la première partie d'une chanteuse qui s'invite littéralement dans votre cinéma, puisqu'on la voit entrer dans le champ de votre caméra en combinaison mini-short argenté, et dès ce premier plan il se passe quelque chose entre Peaches et vous. Vous vous souvenez de cette première rencontre, Marie Lozier, de ce qu'elle a pu provoquer de désir de cinéma chez vous?
Bah oui, très très bien, parce que c'était une bombe de paillettes qui sortait dans le couloir, mais très naturellement, et je, bien sûr, j'étais assez naïve, je savais pas du tout qui c'était.
Elles se font un salut de poitrine avec
Elles font un salut
Porridge.
De poitrine, elles se checkent leurs habits, et moi j'avais aucune partie qu'en fait Genesis faisait la première partie et non la deuxième, ce qui était fou, et ça je l'ai compris juste il y a 6 ans. Au lieu de le comprendre en 2006. Donc oui, je me souviens de cette première rencontre qui était liée à être derrière la caméra. Et tout de suite, il y avait un jeu qui s'est établi immédiatement parce que c'est quand même deux performeuses qui étaient très à l'aise d'être filmées. Et l'une m'a entraînée et l'autre aussi.
Et ça se passe toujours comme ça, donc chez vous, vous rencontrez quelqu'un et tout de suite, vos premiers réflexes, votre première interaction avec lui ou elle, en l'occurrence, c'est de le ou la filmer.
Oui, je pense que comme Émilie, c'est quelque chose d'essentiel pour moi, c'est d'être à l'aise dans la vie, c'est aussi être derrière ma caméra. Et c'est de filmer la vie à travers l'œil de l'optique, de façon spontanée et mise en scène. Mais c'est là que je me sens le plus proche des émotions, de la vie, de la comprendre, et puis d'essayer d'explorer aussi des territoires inconnus pour moi. Et c'est souvent des rencontres qui deviennent des amitiés, qui deviennent un film, et qui prendront le temps qu'ils prendront.
Oui, parce que le temps, là, on l'a entendu. Hein. C'était, donc, je sais pas, 17 ans pour faire ce film. Je crois que c'est un record parce que souvent chez vous, c'est long. Je crois que c'est 6 ans, en moyenne. Quand est-ce que vous savez que tout d'un coup, il y a un film? Enfin, quand est-ce que vous sentez que vous pouvez vous mettre au montage et qu'il y a quelque chose qui va en sortir?
C'est quelque chose d'assez spontané et vibrant, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a quelque chose qui parle du ventre, en fait, c'est complètement physique, où j'ai eu l'impression d'avoir fait aussi le tour de beaucoup de questions, d'avoir essayé plusieurs issues, plusieurs routes, plusieurs portes, d'avoir fait le tour de certaines choses que j'ai essayé de créer, puis d'autres qui se sont provoquées, des surprises, des déceptions. Des facilités, puis aussi des, comme toute relation humaine, des accroches, des difficultés. Et à un moment, je sais qu'il faut regarder et se plonger dans les rushs et dans le son pour pouvoir trouver le film. Parce que même si parfois il faut peut-être même monter et il manque des scènes ou il manque un son ou il y a quelque chose à recoudre, à rafistoler parce qu'il manque dans le travail qui a été fait pendant tant d'années.
Mais j'imagine que quand on se plonge dans 17 ans d'images filmées, c'est aussi votre propre parcours que vous voyez se dérouler sous vos yeux.
J'avoue que c'était un peu vertigineux. Je remercie vraiment Aël Dallier-Vega, la monteuse avec qui je travaille depuis un moment, et c'est formidable de travailler à ses côtés, parce que c'est vrai que c'est comme si je lui amenais un paquet comme un paquet poubelle qu'on ouvre, et puis il faut tout trier, il faut voir s'il y a une narration, etc., et surtout écouter immensément de sons, parce que souvent je me limite quand même par rapport aux images. Je tourne, mais je tourne pas du tout à l'excès, parce que c'est en pellicule aussi, et parce que je le filme moi-même. Donc il y a des moments très intenses et filmés, mais c'est le son qui est enregistré non-stop, parce que comme je suis toute seule, je mets un zoom, j'enregistre plein de choses, j'oublie aussi ce qui a été enregistré, et il faut tout retrier. Et 17 ans de son, avec des trous, bien sûr, comme un bon gruyère, il y a des bons trous. Il y a énormément de sons à écouter, à réécouter, et des surprises. Et puis, on s'écoute, on s'entend, on se voit. On se dit, waouh, j'ai vieilli, j'étais pas mal à l'époque, en fait. Et puis, une honte à s'entendre aussi, parce que c'est toujours très difficile de s'écouter, d'entendre sa voix, et puis de voir et d'écouter ce qu'on a été. Et de revoir des vies aussi, parce que 17 ans, je revois New York, je revois une certaine façon d'être, une vie, un pays, des amitiés, des rencontres, et puis des changements de vie, l'arrivée en Europe, l'évolution, les changements. Donc il y a tout ça à mettre et à trouver l'équilibre qui est fin et juste par rapport à l'histoire qu'on veut raconter, puis l'histoire qui se découvre, auquel on n'avait aucune idée, qui serait là.
Mais la question du vieillissement est précisément au centre de ce film, sauf que vous ne montrez pas quelque chose de chronologique qui serait, la jeune pitcheuse c'était comme ça, et puis voilà comment elle est aujourd'hui. On peut passer d'un plan à l'autre, d'une incarnation corporelle de pitcheuse à une autre, et pourtant il en est question sur le fait de vieillir et d'être un exemple même d'une femme qui vieillit.
Oui, en fait, vieillir, même prendre de l'âge, en tout cas changer, et avoir un corps qui change, un esprit qui évolue aussi, c'est quelque chose qui a toujours été là sans que je me pose de questions, parce que c'est vrai qu'à New York, j'étais entourée de personnes de tout âge, et il y avait quelque chose du jeu, de l'enfance, du rapport humain, de l'amitié, de l'évolution entre artistes, qui n'était pas une question d'âge. Et d'un seul coup, c'est vrai qu'en arrivant en Europe, la question de l'âge a été beaucoup plus déplacée et mise en question d'une façon auquel j'avais jamais trop réfléchi, mais j'ai senti que l'âge avait une place, et aussi l'âge d'une femme et de son corps, et comment on est regardé, perçu, et comment on est aussi persécuté quelque part de par la société, les normes, ce qu'on attend, etc. Et j'ai trouvé ça beau que Pitcheuse, avec le corps qui évolue et qui est au centre de son travail, l'âge, prendre de l'âge et l'énergie que ça donne de faire ce qu'elle fait, ce qu'elle produit sur scène, était quelque chose de beau. Et comme j'ai un amour pour toutes sortes de corps qui évoluent ou qui changent et qui sont parfois très meurtris ou extrêmement beaux, à leur façon, je trouvais ça beau de centrer aussi le film sur l'âge et ce que ça provoque chez une artiste dont le corps est donc le corps est donc ce que voit le public qui est au centre même du média, qui est sur scène, qui est sous les faisceaux de la lumière, devient quelque chose de beau. Alors, avec beaucoup d'humour.
Alors, qu'est-ce que ça donne, justement, pitches sur scène, des corps, de l'énergie et beaucoup d'humour, en effet.
I don't know how to say pussy in French. No, not like a cat, like pussy. You want to say chat? There's got to be a better word for it. You say chat? How do you say, like, fufu, that's a good word. Yeah. How do you say big fucking fufu? Putain de grosse fufu.
Thank you. On aura peut-être compris qu'on est à Paris, où Peaches demande à son public comment on dit pussy en français. Manifestement, elle en connaît déjà pas mal côté vocabulaire, avant que dans une incarnation antérieure, elle n'électrise ses spectateurs en les faisant participer à un vaste show carnavalesque où tout le monde est invité sur scène à chanter, à danser avec elle. C'est une grande bacchanale, une expérience collective particulière qu'un concert de Peaches. Marie Lozier, comment est-ce que vous décririez ce que c'est qu'un concert de Peaches à qui n'en a jamais vu?
C'est une pile électrique, en fait c'est un battement de cœur et on en prend plein les oreilles, plein le corps et il y a une beaucoup de joie en fait. Et pour moi ça a été important, sans le savoir au départ, c'est qu'à New York, les concerts à l'époque, il n'y avait pas de barrière, il n'y avait pas de scène, je pouvais complètement, elle m'invitait à venir sur scène pour filmer, ce qui donnait quand même quelque chose pour quelqu'un qui filme et qui aime filmer, un cadeau en or.
Parce vous que êtes une caméra dansante comme les spectateurs qu'on voit sur scène.
Oui, c'est quelque chose que je n'ai pas pu reproduire même récemment avec elle à Paris quand elle est en concert, parce que je suis d'un seul coup très 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 loin des corps, il n'y a plus cette danse à deux ou danse avec le public, et que c'est un cadeau quand même pour un ou une réalisatrice d'être aussi proche du corps et d'avoir le droit d'être invisible, mais avec une caméra sur scène, d'aller sous les jambes, sous les tables, de courir, de filmer autrement ce qu'est la musique et ce qu'est le corps quand il est électrisé par le vivant, par le moment du concert, de l'émotion et de la pulsation que la musique et le rapport aux autres provoquent en fait.
Ce qui fait que c'est votre propre corps qui est en jeu, là, comme rarement, comme jamais, je crois, dans le cinéma.
Quand j'ai vu les rushs au départ, j'ai dit à elle, mais jamais on va pouvoir le monter, c'est complètement folle dingue ce que j'ai filmé, c'est électrique et les gens vont avoir la tête qui tourne, c'est du tourné-monté, ça va vraiment pas aller. Et on a trouvé la façon de le monter, mais c'était tellement pulse.
Et c'est quoi la façon, justement?
La façon, c'était de trouver une narration pour trouver la chorégraphie et la musicalité, en fait, de passer d'une histoire à un collage. On parlait de collage avec Émilie, et je pense que c'est le mot qui met le plus cher par rapport à la construction du film. C'est autant un collage sonore qu'un collage entre les archives, les moments filmés récents, les moments très anciens qui étaient filmés d'une certaine manière, parce que la façon de filmer en 17 ans a énormément évolué pour moi. J'ai enfin maîtrisé de me calmer un petit peu aussi, de regarder les gens et de me poser. Donc il y a aussi l'évolution de mon travail à travers le film par rapport au collage qui permettait justement cette respiration qui va du très vite au très lent, des mots à la musique, et de trouver aussi tout un monde inventé qui entre tout ça. Justement.
Et le collage, c'est aussi entre une vie publique extrêmement extravertie et une vie privée, familiale, notamment, très touchante. D'abord parce que ses parents âgés ne sont pas les derniers des punks et aiment beaucoup essayer les costumes extravagants de leur fille. Mais il y a aussi cette sœur qui est un corps empêché, un corps malade, qui n'est pas la dernière quand même à faire des courses-poursuites en fauteuil roulant motorisé dans les couloirs. Une scène très, très, très étonnante. Est-ce que Peaches est toujours Peaches, où qu'elle soit?
Oui, c'est ça qui m'a tout de suite touchée. En fait, c'est la rencontre avec Souris qui a été avant la rencontre des parents, justement. Et Souris m'a complètement accueillie. Et ce corps qui était diminué, et empêché, était tellement vibrant et tellement vivant et drôle, et son rapport à sa sœur qui est sur scène une pile électrique et d'un seul coup Souris qui était très immobilisée. J'ai aussi pensé que ce collage des deux corps vivants et éteints était une belle façon de raconter la vitalité et l'amour de la vie et du rapport familial qui était inconnu pour moi par la première rencontre de Peaches, et que de plonger dans la vie personnelle de sa sœur et familiale m'a donné beaucoup de clés sur aussi ce qu'elle est aujourd'hui, Peaches, comment elle crée et l'énergie qu'elle peut donner et les batailles pour lesquelles elle se bat aussi de par ses chansons et sa position.
Émilie Brisavoine, vous avez vu ce Peaches Goes Bananas, vous avez vibré, j'imagine, comme tout spectateur et spectatrice de ce film.
Ah oui, totalement. Moi, j'étais en transe. J'ai adoré les scènes de concert. J'avais l'impression d'être face à une prêtresse punk. Et il y a une espèce de jouissance à regarder parce que justement, il y a son corps qui est complètement libéré, en mouvement, qui est dans la joie, l'amusement, l'humour. Et puis, il y a ton corps à toi qui la filme. Et en fait, cette chorégraphie-là, elle est ultra jouissive à regarder pour le spectateur. Il y a quelque chose d'hyper organique, fort. Enfin, moi, j'ai vraiment envie d'y aller avec mes copines. Et je suis hyper touchée, bien sûr, par la relation qu'elle entretient avec sa sœur, qui, justement, avec ce corps empêché, on se dit que c'est presque des vases communicants. C'est comme si elle devait bouger 10 fois plus pour compenser, justement, cette immobilité de sa sœur. Et j'ai trouvé ça hyper fort aussi. Ses parents, qui sont, justement, des citoyens ordinaires et qui la soutiennent. Et bon, c'est vrai que c'est un petit peu provocant, mais quand même, ils sont tout le temps là, tous les concerts. La mère, elle essaye les costumes avec des gros seins partout. Enfin, c'était vraiment incroyable.
Et c'est aussi parce que, et c'est là la dimension sans doute la plus punk de Peaches, c'est qu'elle donne à voir un corps féminin qui s'assume comme tel, y compris avec le vieillissement, avec les bourrelets, avec les tout ça, mais surtout qui ne veut pas prêter le jeu de la bienséance, quoi. Voilà, c'est la dimension sexuelle du spectacle de Peaches tient à ça, il me semble. Enfin, c'est ça le rôle que joue le sexe dans ses paroles et dans ses costumes et dans ses attitudes.
Je pense que c'est l'esprit punk qui m'a attirée au-delà des paroles, je pense profondément, dans cet esprit de liberté et de jouissance à donner aux autres aussi une sorte de provocation, mais avec beaucoup de bienséance, et donc de dire les choses en face et les dire frontalement, mais d'avoir réussi à créer quelque chose avec le public et avec les autres qui permettent de l'entendre et de l'écouter et de le prendre en pleine face. Et justement, par rapport à toutes les souffrances qu'elle a pu traverser et qu'elle traverse, il y a quelque chose de très triste et nostalgique chez elle qui, je trouve, est très beau parce qu'il sort de par la joie et la provocation sur scène et dans son travail que je voulais vraiment mettre en valeur et en opposition et en juxtaposition.
Et par une manière de faire de la matière même du public une expression de son art. C'est-à-dire qu'on est au-delà de la performance individuelle, parfois on est presque dans l'actionnisme viennois, enfin elle se mutile pas, mais il y a de ça aussi, sauf que le public entier tout d'un coup fait partie de son œuvre.
C'est vraiment une partie, en tout cas le public qui fait partie aussi du corps de Peaches, parce que je pense qu'il n'y a pas juste l'enregistrement, les albums, c'est surtout les concerts. Et ce que j'ai trouvé et découvert, c'est que c'était un personnage aussi, mais qui n'existait profondément que par son action. Et donc les tournées incessantes et constantes pour exister. Et d'où aussi même la parole était complexe dans notre rapport, parce que pour une fois j'étais en face de quelqu'un qui n'avait pas tellement envie de parler, qui n'avait pas tellement envie de se livrer, et que sa façon de se livrer à moi, c'était par son corps et ses concerts et ses relations avec sa sœur et sa famille. Donc c'était une autre approche pour moi aussi.
C'est une manière, une excellente matière de cinéma précisément.
Oui.
Merci Marie Lozier de nous avoir parlé précisément de Peaches Goes Bananas, votre nouveau film sortira en salle mercredi prochain. On peut aussi vous voir exposé en ce moment à Bourges au Centre d'art contemporain Transpalette. Ça s'appelle Hooky Wookie. Votre art du portrait s'y étale sous toutes ses formes et supports et c'est jusqu'au 31 août. Et puis on vous retrouve aussi tout à l'heure sur cette antenne à 16h dans l'expérience. Vous serez en conversation pleine de souvenirs new-yorkais avec la mythique Jackie Reynal, votre maman de cinéma à ne pas rater. Et la Cinéthèque, la cinémathèque en ligne des cinéastes, profite aussi de son côté de la sortie de votre film pour faire un focus chanteuse et chanteur au cinéma, de Woodstock à Michael Jackson en passant par les géniaux Honky Tonk Man de Clint Eastwood et Nashville de Robert Altman. On trouve aussi bien sûr sur la Cinéthèque un hommage en quatre films et pas des moindres, Bonnie and Clyde, L'Épouvantail, Conversation secrète et Impitoyable, au grand Gene Hackman, disparu cette semaine à 95 ans. Pour gagner des abonnements d'un an à la Cinéthèque, Tech. Surveillez attentivement les fils Facebook et Instagram de France Culture. Vous écoutez précisément France Culture et dans Plan Large, on ouvre comme chaque samedi le journal du cinéma avec encore quelques autres films sortis et ressortis cette semaine.
La rétine du monde n'a cessé d'accumuler des images. La vérité, la personnalité, c'est là tout le dogme de l'art moderne, dont l'origine est Velázquez.
Waouh, c'est passionnant. Et là, notre dernier livre est en cours, justement, et le point de départ, c'est pourquoi n'y a-t-il pas eu de pont entre les intellectuels et les gilets jaunes ?
J'ai pas trouvé la moutarde.
Je vais devoir vous demander où sont les toilettes.
Your call has been forwarded to an automated voice messaging system.
Is anyone else, like, feeling this right now?
Feeling what?
Emily San.
Qui êtes-vous ?
Arata no Wandes. Boku to issho ni.
Si vous saviez ce que votre musique représente par tant de personnes ici au Japon.
El asunto de la resurrección no les ajeno a las hormigas, a las arañas. Pueden estar en el centro de una piedra cientos de años.
Comment vous appelez-vous?
Gisèle, ça fait Gabi.
Ça te plaît?
Non, mais je ne peux plus entendre vos railleries.
Tu me parles pas.
Personne ne t'aime.
C'est culotté ce que vous faites là, patron.
Sur vos écrans, depuis ce mercredi, une enquête un peu trop révérencieuse tout de même sur la dimension cinématographique d'un maître de la peinture classique espagnole, introduite par le Jean-Paul Belmondo dans sa baignoire de Pierrot le Fou et narrée par la voix de Vincent Lindon. C'est après le mystère Jérôme Bosch et l'ombre de Goya, l'énigme Velázquez, du même producteur et réalisateur Stéphane Sorla. Une satire des néo-ruraux qui vire à la tentative d'invention d'une utopie carnavalesque dans un château transformé en tiers-lieu. C'est l'assez azimuté et brinque-ballante comédie Bonjour l'asile, le nouveau film de Judith Davis et de L'avantage du doute, le collectif théâtral issu de son premier film Tout ce qu'il me reste de la révolution. Une satire encore mais mélancolique en forme de buddy movie du tourisme mémoriel des juifs américains sur les traces de la Shoah, c'est A Real Pain, le second film comme réalisateur du comédien Jesse Eisenberg qui malheureusement tombe trop souvent dans les travers de ce qu'il dénonce, sans parler Pologne oblige d'une très embarrassante bande pas très originale en forme de best-of Frédéric Chopin, une vieille vedette de la chanson française qui meurt en tournée nippone et revient en fantôme éberlué, c'est Yokai, le monde des esprits, l'étrange et assez séduisante aventure d'un cinéaste singapourien qui fait tourner au Japon une star française en s'inspirant d'étoiles d'un peintre américain. J'ai nommé dans l'ordre Eric Kou, Catherine Deneuve et Edward Hopper, une vraie curiosité. La naissance d'un vampire et tout en même temps d'un cinéaste fantastique dès ses débuts très inspiré. C'est surgi des limbes du temps puisqu'il n'avait bizarrement jamais encore été distribué en salle. Chronos, le premier film de Guillermo del Toro, c'était en 1993, film qui sort donc enfin dans une copie restaurée par le réalisateur lui-même et on en reparlera sans doute dans cette émission. Et puis enfin les quelques films qui, à la naissance du parlant, ont installé Julien Duvivier comme un des plus grands et pessimistes cinéastes français, ce sont David Golder, Les cinq gentlemen maudits, Poil de carotte, La tête d'un homme et Pépé le Moko, de retour en salle en copie, elle aussi restaurée. Nous reste encore à vous rappeler la reprise demain au Forum des Images à Paris des films au palmarès du dernier Festival International du court-métrage de Clermont-Ferrand, dont bon nombre des lauréats étaient nos invités dans notre émission clermontoise d'il y a un mois. On signale aussi à partir de mercredi prochain jusqu'au 18 mars un peu partout en France la 6e édition de Best of Doc, soit le retour en salle de 10 des meilleurs documentaires de l'année passée, avec aussi des avant-premières et des rencontres. Le cinéaste palestinien Bazel Adra également reçu dans cette émission, viendra ainsi discuter jeudi avec le public du Luxor à Paris de son très beau et poignant No Other Land, co-signé avec le cinéaste israélien Yval Abraham, et malheureusement toujours plus d'actualité aujourd'hui. Enfin, pour voir sur grand écran tous les films d'Agnès Varda, ce sera du 4 mars au 30 avril au Pâté Wilson à Toulouse, une programmation hors les murs de la Cinémathèque de Toulouse. Ceci annoncé, il est l'heure d'une petite leçon de jeu d'acteur, et en l'occurrence d'actrice.
Allie, now don't panic, please! Don't
panic, I told you it's a mistake to ever bring a live thing in the house.
Stop it, don't do that, go to that one, there.
You know, maybe we should just call the police. Dial 911, it's the lobster squad.
Come on, Allie, they're only baby ones, for God's sake.
If they're only babies, then you pick them up.
Oh, all right, here. Here.
Oh, don't give it to me. Don't. Look, one crawl behind the refrigerator. It'll turn up in our bed at night. Will you get out of here with that thing? Jesus.
Get it.
Talk to him. You speak shellfish. Hey, look, put it in the pot.
I can't put it in the pot. I can't put a live thing in hot water.
What do you think we're going to do? Oh, take God. It to the movies?
Here you go. Oh, good, Abby. Oh, thank you.
Okay, it's in. Right. It's definitely in the pot. Annie, there's a big lobster behind the refrigerator. I can't get it out. This thing's heavy. Maybe if I put a little dish of butter sauce here with a nutcracker, it'll run out the other side. You know, out of
instinct. I'm gonna get my camera. Hold on.
You know, I think if I could pry the oar up. We should have gotten snakes, because they don't have legs. They don't run around.
Here, pick this lobster up. Hold it, please.
What do you mean?
It'll make great.
You're gonna take pictures
it'll
now?
It'll be, Albie, it'll be wonderful. Right, oh, lovely.
Oh, God, that's
don't
disgusting.
Be one more, Ellie, please. One more thing. Oh, good.
Scène célèbre dite des homards de Lenny Hall de Woody Allen. Diane Keaton aurait-elle aussi bien réagi aux crustacés qui envahissent leur cuisine si elle n'avait pas suivi les cours de Sanford Meisner, l'apôtre de la réalité du fer contre la mémoire émotionnelle de la méthode de l'acteur studio? Elle est en tout cas une de ses nombreuses disciples, tout comme Robert Duvall ou côté cinéaste Sidney Pollack, qui fut son assistant, et Sidney Lumet, et puis même des écrivains comme David Mamet ou Arthur Miller. Il y a très peu de bons livres sur l'art du jeu d'acteur, écrit Sidney Pollack. Celui-ci en fait partie, poursuit-il, faisant donc référence au livre sur le jeu d'acteur de Sanford Meisner, qui vient d'être traduit en France, près de 40 ans après sa publication américaine. J'envie celles et ceux, conclut-il, qui parmi vous vont découvrir Sandy pour la première fois. Alors cette épiphanie fut-elle la vôtre, Charlotte Garçon ?
Bon, alors si on veut garder votre terminologie quasi religieuse, la bonne nouvelle de cette parution, déjà, c'est qu'un éditeur qui se consacre exclusivement aux livres de cinéma, Capricci, s'intéresse à cette partie apparemment émergée, mais en fait assez méconnue, du cinéma américain, à savoir le jeu d'acteur en tant qu'il provient des techniques théâtrales. Pour le dire plus largement, en fait, on a tendance, en tant que cinéphile, me semble-t-il, à oublier que les plus grands cinéastes hollywoodiens, Ernst Lubitsch, par exemple, Douglas Sirk, plus tard, ont eu une longue pratique théâtrale, et au lieu d'avoir condamné leur cinéma à n'être que du théâtre filmé, leur expérience du jeu d'acteur de théâtre est entrée en tension avec la singularité technique et esthétique de la mise en scène propre à l'écran. Alors pourquoi on l'oublie ? Évidemment parce que les films restent et que rares sont les captations de spectacles vivants anciens. Alors il y a 3 ans, le même éditeur a fait traduire un livre au titre similaire, L'art du jeu d'acteur, 22 leçons de l'actrice et professeure new-yorkaise Stella Adler. Sur le jeu d'acteur de Sanford Meisner, vient le compléter. Il a été écrit ou presque plutôt transcrit par un élève de Sanford Meisner, Dennis Longwell, en 1986, 9 ans avant la mort de Meisner. Et il a été traduit donc en français tout récemment par l'élève d'élèves de Meisner, Denis Gransart. Et comme l'ouvrage de Stella Adler, ce n'est ni un manuel de théâtre, ni un traité théorique, et ce ne sont pas non plus des mémoires, mais évidemment c'est un peu tout ça. Et c'est aussi un peu moins que tout cela, je dirais. Alors, au mur de son bureau, Meisner avait accroché une citation de Goethe : « Je souhaite que la scène soit aussi étroite que le fil d'un funambule, afin qu'aucun incompétent n'ose y monter. » Cette phrase ne dit pas seulement l'exigence du professeur qui, dans ce livre, puisque le livre suit au jour le jour 13 mois de cours à Neighborhood Playhouse à New York, il va en arriver, lui, quand même, pendant l'année, à exclure l'un de ses élèves en disant qu'il ne peut plus rien pour lui, mais ça veut dire aussi travailler sur le fil, ça veut dire que jouer, c'est accepter de prendre des risques, et en particulier des risques émotionnels. Ce dont ce livre est donc mis en page presque comme une pièce de théâtre, puisque c'est des dialogues entre le prof et ses élèves en plein exercice. Il faut quand même se souvenir dans quel état physique est ce maître assez humoriste, un petit peu, Meissner. Il a subi une ablation des cordes vocales et plusieurs opérations des yeux. Il parle donc en fait en aspirant l'air, et il y a un petit micro qui est placé derrière ses grosses lunettes. Il s'est fait renverser par un camion, donc il a la hanche cassée, il boite. Bref, on a l'impression que toutes ces entraves physiques rendent plus intense encore la relation qu'il développe avec les participants à son cours. Et puis, il y a du coup cette espèce d'urgence de la transmission qui l'amène à personnaliser son adresse et à prendre à partie un tel ou une telle. Dans la plupart des professions, précise-t-il dans un prologue, chaque praticien utilise les mêmes instruments et les mêmes techniques, tandis que l'instrument principal de l'acteur, c'est lui-même. C'est une affirmation que Meissner partage évidemment avec d'autres tenants de la méthode étant une appellation paresseuse qui couvre presque tout le jeu d'acteur américain contemporain. C'est Sidney Pollack qui l'écrit dans son introduction. Alors certes, au cours des 10 ans de vie du Group Theatre, Meissner a été influencé par Lee Strasberg, qui en était le principal metteur en scène, et qui était donc aussi pape de la méthode. Meissner appelle Strasberg un fanatique de l'émotion vraie. Mais Meissner va minimiser ce que le grand théoricien du théâtre Stanislavski appelle la mémoire affective, c'est-à-dire la tentative consciente de l'acteur de se souvenir d'un événement traumatisant de son passé pour nourrir son jeu. Dans le déroulé d'une année de cours, au contraire, qu'est-ce qu'il va privilégier ? Dans un premier temps, une certaine mécanicité. Hein, son exercice principal consiste à faire répéter la même phrase, comme ça en dialogue. Tu tiens un stylo ? Oui, je tiens un stylo. Tu tiens ce stylo ? Oui, je le tiens, ce stylo. Jusqu'à ce que ça commence à ressembler à de la parole humaine, dit-il, et que le point de vue naisse dans l'interlocution. Il travaille aussi sur ce que Stanislavski appelle la solitude publique. C'est la capacité d'être sur scène, comme quand on se peigne devant sa glace, dans un état détendu et entier, c'est-à-dire le contraire d'un jeu qui pointerait des intentions. Alors rien de tel pour contrer ces intentions venant de l'intellect que d'occuper chacun des acteurs à une tâche plus absorbante que le dialogue, écrire une lettre, classer des timbres, faire le ménage. Et de la préparation à l'improvisation, puis au travail de scènes précises, on suit donc surtout dans ce livre une aventure collective qui a des aspects psychanalytiques et qui a aussi le mérite de montrer que l'émotion, ça s'imagine, ça se travaille, et que le reste, le texte, pousse mieux dans un terreau ainsi travaillé. C'est ça ma méthode de jeu, dit Meissner, pleurer d'abord, puis parler. Le texte, c'est comme une pirogue, dit-il encore, et la rivière sur laquelle il se trouve, c'est l'émotion. Le texte flotte sur la rivière. Still the thrill that it was the day I found you seems like old times. Dinner dates and flowers. Staying up all hours, making dreams come true, doing things we used to do. Seems like old times.
Here with you. Thank you.
Merci à vous et bravo Charlotte Garçon sur le jeu d'acteur de Sanford Meisner. C'est aux éditions Capricci dans une traduction de Marc Gransard. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son d'Ali Yaha, l'émission était préparée par Vanessa Prévost et réalisée par Anne-Laure Chanel.